bah, ma foi, déjà merci aux quelques vaillants. Je ne sais même pas si les micros seront très utiles en fait.
Ça fait pro.
Merci aux quelques vaillants qui sont venus assister à cette conférence qui était prévue totalement au dernier moment. Donc il va être une bonne part d'improvisation et de causerie plus que vraiment de conférence. Donc n'hésitez pas à participer si vous avez des remarques pertinentes ou non, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Je pense que n'hésitez pas, enfin, tu seras d'accord avec moi, je pense n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions ou si vous pensez qu'on dit des âneries, ce qui peut arriver aussi. Le thème, évidemment, vous l'aurez compris, je suppose, était de parler du steampunk, ce qui s'inscrit assez logiquement dans le thème du festival. Et l'organisateur principal nous a proposé un sujet qui était une réflexion sur les steamers de terrain. Et j'ai un peu honte puisque l'expression steamer de terrain, c'est moi-même qui l'ai utilisé hier soir dans un message. Donc je vais peut-être devoir justifier déjà et légitimer cette expression. Au-delà de la querelle sémantique entre steampunk, steamer et vaporiste, sur laquelle on reviendra peut-être pas, au-delà de l'affreux barbarisme qui est le mot steamer qui n'est utilisé à ma connaissance qu'en France, à vérifier, mais je crois, j'entendais par steamer de terrain toute la catégorie nouvellement émergente des individus pratiquant une forme de steampunk qui ne soit finalement pas littéraire ou même non artistique plus généralement. Le sujet me paraît pas inintéressant dans la mesure où c'est un phénomène qui est récent. À titre personnel, je le daterais pour la France du tout début des années 2010, peut-être toute fin des années 2008-2009. Un peu plus tôt aux États-Unis, un peu plus tôt en Angleterre, je pense. Et c'est en soi déjà intéressant, puisque c'est complètement en contradiction avec le mouvement littéraire steampunk, qui lui est beaucoup plus ancien, mais ça, sur l'histoire du steampunk, Étienne, tu seras beaucoup plus compétent que moi.
Voilà, je pense. le steampunk est un genre ancien. Le mot steampunk date de la fin des années 80, donc il n'y a pas de... Mais il est sorti de l'adolescence depuis longtemps. Mais le steampunk des années 80 n'a strictement rien à voir avec le steampunk des années 2000, qui n'a rien à voir avec le steampunk des années 2010. Il y a une évolution énorme du genre qui se fait à mesure que la communauté se diversifie, s'amplifie, se développe et se révèle dans sa créativité. Ce qui est arrivé est, à mon sens, quelque chose d'assez unique dans l'histoire des genres de l'imaginaire, où il y a une création qui va être à la base abandonnée par ses créateurs. Tim Powers, Blaylock et Jeters ont arrêté, enfin, mis à part Jeters, qui a republié un roman steampunk il y a peu, ont totalement arrêté dès la fin des années 80 l'écriture de fiction rétrofuturiste pour continuer et vaquer à leurs occupations. Et presque, voilà, malgré eux, tout d'un coup, il y avait ce mot qui s'est fixé sur une réalité déjà existante, donc le goût pour des fictions anciennes, et un goût rétrofuturiste, c'est-à-dire qu'on revisite l'imaginaire de ces fictions à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui. Il suffit de penser à la série télévisée des Mystères de l'Ouest pour nous rappeler que le mouvement est tout sauf nouveau. Les Mystères de l'Ouest, où il y a quand même des épisodes avec du voyage dans le temps, des robots, enfin, tout en ayant de la parodie, des références à James Bond et du western. Donc la mécanique propre à la création du steampunk est une mécanique ancienne. Mais tout d'un coup, à la fin des années 80, on avait de quoi baptiser tout cela et ne plus utiliser ce gros mot de fiction rétrofuturiste référentiel. Enfin, on ne savait pas comment les appeler.
Ce qui explique aussi que la plupart des artistes, notamment en art graphique, qui bossent sur des thématiques qu'aujourd'hui on considérait comme steampunk depuis éventuellement les années 80 ou 90, se sont soudainement rendus compte qu'ils étaient mis sous une catégorie dont ils ignoraient jusqu'à l'existence.
Quand Alan Moore crée la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il ignore totalement l'existence du mot steampunk.
Et plus récemment, Sam Von Hulfen m'avait fait la confidence que lorsqu'il a commencé à faire ses œuvres typiquement rétrofuturistes, il ignorait jusqu'au mot. Il a été bazardé, il était balancé comme étant une des figures de proue du steampunk français en art graphique, sans même qu'on lui ait demandé son avis, sans même avoir idée du type dans lequel il était en train de travailler.
Cette idée que, voilà, on a le mot, on a l'étiquette qui nous permet d'identifier, de nommer, de s'approprier la chose, pour dire ce que c'est, et de pouvoir tout d'un coup construire du sens autour. Parce que comme on a un mot qui n'a jamais été défini, qui n'est qu'une boutade, hein, que Jeter savait balancer comme ça, pour définir leur travail. Donc il n'y a pas de manifeste, il n'y a pas de source, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de clan. Et le steampunk, par définition, par sa naissance même, est ce que les gens en font.
Et justement, est-ce que dans les avatars récents du steampunk, et notamment ce que j'appelle steamer de terrain, c'est-à-dire notamment les cosplayers, les associations qui font éventuellement de l'événementiel, de la déambulation, bref, qui sont très axées sur le costume, sur l'apparence, on pourrait dire mode, mais on pourra revenir là-dessus. Est-ce que justement leur propre existence n'est pas en train de définir quelque chose qui n'a pas été défini à partir de façon quasiment rétronymique? Oui. Le steampunk a été défini de façon très vague. Dans le steampunk de Powers, qui est l'auteur que je connais le mieux finalement, il n'y a ni steam ni punk.
Et il y a des loups-garous.
Il y a des loups-garous, exactement. Il y a du voyage dans le temps. Mais la notion de vapeur n'existe pas. La notion de punk au sens cyberpunk, donc au sens rejet de la société, n'existe pas. Ou très peu.
Et c'est pas victorien.
Ce n'est pas victorien qui plus est, ça se passe dans les années 1820, je crois, de mémoire, 1830.
Un peu avant.
Un peu avant même. Et pourtant, la notion steampunk s'est créée d'elle-même. Je pense à un univers comme Château Falkenstein aussi, qui est finalement tout sauf steam et punk. Mais par contre, on a de la magie, du dragon, tout ça dans une espèce de 18e siècle alternatif. Est-ce qu'à partir du moment de... Ou dans les années 2000, donc 2008, 2010, on va dire, a commencé à émerger cette nouvelle tendance steampunk. Est-ce que c'est pas là justement que le mot a pris sa légitimité?
Le mot a gagné de la légitimité à mesure que les gens l'employaient.
Certes.
Et le fait d'avoir des étiquettes, des couvertures avec le mot steampunk dessus, Le fait que la mécanique qui elle appartenait au laboratoire s'est mise à produire des choses, mais que cette mécanique n'était plus exclusivement littéraire. Donc si je fais une démarche rétrofuturiste référentielle steampunk, cette démarche là eh bien je peux l'appliquer en musique, je peux l'appliquer en art plastique, je peux l'appliquer à peu près où tu veux.
Bien sûr.
Et donc, c'est pour cela qu'il y a des auteurs différents qui ont, ou même des artistes différents qui se sont mis à explorer leur propre sensibilité et à réinventer des choses qui existaient déjà par ailleurs. Donc, cette impression de génération spontanée, c'est que sur l'espace de 10 ans, aux alentours des années 2000, on voit apparaître les arts plastiques, les arts graphiques, le roman, la musique. Et l'esthétique, qui unifie le tout. Donc, et une esthétique forte, immédiatement reconnaissable et immédiatement explicable. Comme je le dis toujours, si je veux expliquer la fantaisie à ma grand-mère, je vais avoir du mal, ça va prendre du temps. Il faut lui expliquer les codes, les races, le monde, voilà. Il y a tout un apprentissage à faire, une courbe d'apprentissage à suivre. Il suffit de lire les 300 premières pages du Seigneur des Anneaux. Mais le steampunk, voilà, on peut montrer une photo et on comprend spontanément, sans qu'il y ait besoin d'explication, de quoi il retourne.
Alors justement, est-ce que le fait que, si l'on montre une photo et qu'elle est tout de suite parlante, cette photo, statistiquement, aura toutes les chances d'être une photo récente. Parce que justement, l'art photographique sur le steampunk est relativement récent. Est-ce que le fait qu'on puisse le faire dans ce cadre-là et qu'on n'ait pas pu le faire dans les années 80-90 avec de la littérature ne montre pas une forme de cristallisation, d'appauvrissement du genre?
Non, parce que c'est à double. Enfin, il faut penser aussi au phénomène des réseaux sociaux. Il y a eu une double caisse de résonance. D'abord, sur Internet, tout ce qui était forum.
Oui, bien sûr.
Blogs et forums, qui ont été les premiers à communiquer sur l'actualité, sur ce qu'il se faisait. Et ensuite, il y a eu le phénomène Facebook qui a tout balayé, qui a tué la plupart des forums et beaucoup de blogs, où justement, c'est là maintenant que circulent quantité d'images et quantité d'informations. Mais actuellement, quelqu'un qui découvre le steampunk, à 99%, ça va être par l'image en premier.
Oui, tout à fait, absolument.
Tandis que si on remonte dans le temps, on va croiser des gens qui l'auront découvert, pour certains, par le livre, pour d'autres, par la bande dessinée.
Oui, absolument, il y a
Donc,
quelques bons exemples de BD steampunk.
qui seront passés par la fiction. Maintenant, on a des gens qui arrivent, qui ont tout à découvrir sur l'histoire du genre, mais qui sont sensibilisés déjà à l'esthétique.
Tout à fait, voir beaucoup de gens qui utilisent l'esthétique, enfin qui se complaisent dans cette esthétique sans avoir les notions littéraires derrière.
On peut connaître et
J'en connais.
apprécier le steampunk
Ah
sans forcément connaître toutes les arcanes et avoir tout lu et tout ça.
mais. Je n'ai pas de jugement de valeur hein, là,
Mais
sur la
le,
phrase.
il est vrai, bon, c'est comme n'importe quel genre, hein, quelqu'un qui aime le rock'n'roll, mais il l'aimera mieux s'il sait un petit peu comment a pu évoluer la musique.
Certainement. Mais effectivement, pour filer ta réflexion, on n'est pas obligé, en écoutant du Black Sabbath, d'aller écouter Elvis Presley pour le comprendre. En
Oui.
effet.
Non, là j'ai du Black Sabbath dans l'oreille maintenant. Merci.
Y a pire.
Mais le donc il y a ce phénomène historique-là, donc d'expansion du mouvement, de variation sur des supports différents, et de l'autre côté, donc on va dire les vaporistes, qui eux sont multiformes. Parce qu'il y a donc les gens qui le découvrent tout seul dans leur coin sur Internet. Et qui petit à petit, ben, grâce à enfin, Google ou n'importe quoi, finissent par tomber soit sur une grosse page Facebook, soit sur
Tout à
un.
fait.
Et qui petit à petit, voilà, ils découvrent comme cela. Les gens qui découvrent parce qu'en convention, ils ont vu des gens dans des costumes absolument sublimes. Ceux qui arrivent par le jeu de rôle grandeur nature.
Tout à fait.
Ceux qui arrivent de la reconstitution historique. Et qui prennent tout ça comme une récréation ludique rafraîchissante.
Oui, moins étouffante que ne peut l'être une reconstitution à proprement parler.
Donc voilà, donc il y a tout un ensemble très disparate de gens qui, a priori, ne se parleraient pas forcément. Un rôliste n'est pas forcément un lecteur, ou un lecteur n'est pas forcément un joueur de jeux vidéo, ou un joueur de. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Et qui se retrouve dans ce même capharnaüm qu'est le steampunk.
Qui crée une passerelle entre les divers médias. Et donc, tu ne penses pas que le fait que le mot steampunk même ait pris une nouvelle, si ce n'est une nouvelle définition, au moins une nouvelle ampleur, n'ait pas pu le restreindre son amplitude? J'entends par là, quelqu'un comme Blaylock ou quelqu'un comme Powers dans les années 80, début des années 80, leur idée c'est quand même d'être extrêmement fantaisiste dans ce qu'ils font. Les voix d'Anubis
Très
de Tim
drôle.
Powers, c'est hilarant, mais ça part dans tous les sens.
C'est
C'est
potache.
tout à fait potache. Et on sent que c'est un roman qu'il a écrit pour s'amuser avec ses copains, au final. Donc le champ d'action est total. Il peut mettre du magicien égyptien s'il veut, il peut mettre du voyage dans le temps entre le 17e, le 19e, le 20e, ça marche. Il peut mettre du loup-garou, effectivement, ça n'a aucun sens, mais c'est très très drôle. Aujourd'hui, si on crée, et quand on crée, parce que j'en ai lu récemment des courtes fictions steampunk de jeunes auteurs, donc j'entends des auteurs qui sont entre 25 et 30 ans aujourd'hui, est-ce que ceci, dans la mesure où le steampunk ne s'est défini d'une certaine façon, est-ce qu'ils n'ont pas l'obligation d'avoir perdu une forme de fantaisie, une forme de possibilité d'aller voir ailleurs que dans leur propre spectre? J'entends parler, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de canon tacite, sans manifeste, ça tu l'as déjà mentionné, il n'y a pas de manifeste du steampunk, mais un canon qui s'est créé et qui permet aujourd'hui d'entendre des phrases comme ça c'est steampunk, ça c'est pas steampunk, en parlant d'un costume, en parlant d'une soirée, en parlant, combien de fois je l'ai entendu en montant une soirée, sur un forum, tel utilisateur du forum voyant l'artiste programmé disait mais lui il n'est pas steampunk, ce qui n'a aucun sens, théoriquement. Et pourtant, c'est quelque chose qui aujourd'hui existe.
Un artiste steampunk, c'est quelqu'un qui, voilà, soit qui le dit,
Oui.
soit qui est peu identifiable comme tel. Mais si on écoute simplement la musique steampunk, on est quand même dans un éventail qui va du néo gypsy
Tout à fait.
cabaret à des avatars post-industriels
Absolument.
technoïde mécanisant.
La question de la musique steampunk, d'ailleurs, n'est toujours pas close. Je pense qu'elle ne le sera pas avant un moment.
Mais grosso modo, les pires livres steampunk récents que j'ai pu lire, je donnerai.
Non.
C'est ceux qui utilisent l'esthétique pour ce qu'elle est. Donc, qui te mettent un héros qui a un chapeau melon, ou un chapeau claque, avec les goggles posés dessus.
Tout à fait.
Une héroïne en corset.
Fille de bonne famille de préférence.
Qui se bat avec des katanas qu'elle range dans son dos. Et après, voilà, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on a juste pris les éléments de la recette. Et on a fait un brouet plus ou moins infâme.
Mais au-delà du côté putassier de la démarche, est-ce que ça vient pas aussi d'une création de tropes, de poncifs, qui fait qu'aujourd'hui, un jeune auteur décidant d'écrire du steampunk va se reposer sur ces tropes et s'enfermer dedans, et donc tuer une forme de créativité?
Ben, disons que, d'un strict point de vue littéraire, si tes personnages ont des goggles sur les lunettes, il vaut mieux que le monde dans lequel ils vivent, enfin, des goggles sur le chapeau, il faut que le monde où ils vivent le justifie.
Certes.
À partir du moment où tu as une cohérence interne, on est dans une démarche qui va fonctionner. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui... Voilà, enfin, des auteurs... Voilà, c'était quoi New Victoria. Mm-hmm. Où elle faisait un mélange de steampunk et de zombies.
Oui, deux effets de mode.
Donc, qui est un roman assez insupportable à lire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ça. Mais sinon, ce n'est pas la peine parce que je l'ai fait pour vous. Et où justement, c'est donc dans son monde futuriste, une société qui se reconstituait de zéro. Et ils décidaient qu'ils allaient tous devenir victoriens parce que c'était la plus belle époque de l'humanité.
D'accord.
Et donc, ils étaient tous en chapeau melon et en corset, etc. Et donc là, on a vraiment l'auteur qui prend son cahier des charges et qui veut faire un roman ciblé, calibré pour un marché.
Donc il plaque artificiellement sa notion victorienne.
Voilà.
Je te cache pas que c'est un peu ce que j'ai ressenti à la lecture de L'âge de diamant de Stevenson, qu'on m'avait présenté comme un ouvrage ayant une composante steampunk, alors qu'en réalité c'est véritablement un ouvrage cyberpunk.
C'est du cyberpunk victorien.
Avec un aspect victorien qui me paraît totalement hors de propos. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai un grief contre cet ouvrage. Est-ce que la démarche n'est pas la même, justement?
À l'époque, je pense pas.
Alors, c'est vrai que c'est un roman qui date de quoi, des années 90?
Oui. Donc là, non, je pense pas. Mais dans la production actuelle, et surtout dans la production américaine, donc ce qui est à destination des young adults, donc c'est y a eu la mode du vampire, il y a eu la mode du zombie, la mode du héros atteint d'une maladie mortelle et pourtant il va tomber amoureux. C'était la cycle.
J'ai raté celle-là.
Nos étoiles contraires, je te recommande. Et donc on voit les auteurs qui essayent d'anticiper sur ce qui pourrait peut-être être la prochaine mode, donc le steampunk. Donc là, un des signes de la maturité du steampunk, c'est que, un, il est caricaturable extrêmement facilement.
Oui.
Deux, il est commercialisable extrêmement facilement.
Tout à fait.
Et trois, il est capable de dépasser tout cela. Le fonctionnement même du steampunk, c'est quelque chose qui se réinvente en permanence.
Presque par définition, oui.
Donc le fait de, tant qu'il va continuer à se réinventer, il existera. Et le jour où il cessera de se réinventer, ça va faire, il va se déliter progressivement.
Ou jusqu'au moment où, en se réinventant, il va modifier ses codes, sortir des codes qui font que le steampunk est du steampunk et devenir finalement autre chose.
Je pense qu'il va aussi aller de plus en plus, enfin, pour explorer des imaginaires différents. Là, le terminus du steampunk, c'est 1914.
Oui, généralement.
Ah, on ne peut pas faire du steampunk après la Première Guerre mondiale.
C'est un peu pour ça que les notions, toutes les dérives type dieselpunk, atompunk, ont été créées au final.
Et qui elles, vont prendre peut-être une... Enfin, vont devenir de plus en plus visibles.
Je pense aussi.
Même si, là aussi, ce sont des genres qui existent depuis très longtemps.
Absolument, mais qui ne sont pas encore connus par le grand public, nécessairement. À titre personnel, je mise beaucoup sur le dieselpunk. Dans son côté beaucoup plus noir, beaucoup plus contemporain finalement, puisque 1914 c'est le début du XXe siècle, à peu de choses près. On parle déjà d'un monde contemporain.
Donc là, ça peut être une piste d'évolution. Il peut y avoir également des possibilités, je vais dire locales. Le steampunk francophone n'a rien à voir avec le steampunk anglo-saxon.
Logiquement, au final, puisque ça s'inscrit dans une temporalité, enfin, dans une chronologie et dans une géographie donnée.
De même pour le costume steampunk en France. Ressemble généralement peu à ce qu'on peut voir en convention américaine. En convention américaine, ils vont aller plus vers je vais dire un gros mot, vers le grotesque, vers l'humour, vers la parodie. Hein, ils ne vont pas
D'accord.
hésiter à faire du Ghostbuster steampunk ou voilà, mélanger les
Oui, des
genres.
mélanges de références.
Tandis qu'en France, la tendance générale, là, je généralise affreusement, on est
Oui, bien
plus
sûr.
vers une recherche d'élégance et de raffinement. Donc un goût du détail, un goût de la création personnelle et individuelle, une recherche de la beaucoup plus artistique, hein, beaucoup plus consciente d'elle-même.
Oui, ce qui d'ailleurs m'a fait dire il y a quelques années dans une autre conférence que, et ce dont je suis convaincu, d'ailleurs que la communauté, s'il y en a une, steampunk française actuelle, n'est que, si ce n'est un succès d'année, au moins une descendance directe de la communauté goth des années 90, qui elle-même descend de la communauté punk des années 70-80.
Il y a des effets
Il
de
y a
continuité.
des évidents effets de continuité.
Sans que ce soit exclusif, là
Absolument.
encore, l'un par rapport à l'autre, et sans que le fait d'aimer le steampunk vous oblige à écouter de la musique gothique.
Absolument, heureusement. Parce qu'on dirait un peu, mais ce que tu décrivais, notamment le souci du détail et de l'élégance, se retrouve dans les deux thématiques, quasiment sous la même forme.
Alors, on peut dire parce que c'est culturel, parce que c'est notre héritage, parce que c'est aussi retrouver des racines qui vont. Et là, c'est. Enfin, je pense que c'est très punk dans l'âme. C'est retrouver aussi une démarche contestataire par rapport à une certaine mondialisation des goûts et des habits. Donc là, il y a une volonté qui peut être d'indépendance.
De là à conclure qu'il y a un aspect politique dans le steampunk.
Alors, certains.
Débat qui est pas nouveau, hein,
Euh,
mais.
ça, ça, alors, ça, alors, ça, ce qui apparaît chez certains critiques américains qui relient le steampunk avec le mouvement green. Alors, là encore, c'est les écologistes américains. Il ne faut pas faire forcément la
Oui,
passerelle
tout à
avec
fait.
nous. Comme étant un mouvement contestataire par rapport à une société d'hyper-commercialisation et consommation comme la nôtre.
Un monde contemporain,
L'éloge de la
voilà.
lenteur au détriment de notre monde de la vitesse.
À titre personnel, je vois un peu une impasse dans cette réflexion, puisque, du moins en France, et là je dois admettre déjà la limite de ma remarque, en France je n'ai jamais croisé de vaporiste ou d'amateur de steampunk ayant véritablement une démarche politisante dans sa façon de traiter le steampunk. Je n'en connais pas. Il y en a sûrement, hein, je le nie pas, mais je pense que c'est une fausse piste, au moins en France.
Ou alors c'est une volonté de surintellectualiser
Certainement.
ou de chercher à donner une densité supplémentaire au mouvement, ou une légitimité supplémentaire dont il n'a absolument pas besoin.
Oui, je pense aussi, oui. Une surinterprétation, finalement. Et je suis assez d'accord là-dessus. Pardon, j'avais failli
Non,
dire
non,
non.
non, non, non.
Si vous avez des remarques sur ce qu'on dit, n'hésitez pas, hein, parce qu'on est un peu en
Sur
dialogue.
l'écologie, enfin le côté green, moi aussi j'ai lu ça quelque
Oui,
part, je l'ai
c'est.
vu dans un reportage. Je crois que c'était plus le côté, vu qu'il n'y a pas d'électricité, du coup on apprend à vivre comme avant, pas le côté, comment dire, on n'utilise pas les énergies actuelles, quoi.
Voilà, c'est non, c'est il y a ça aussi, l'idée de récupération, donc
Oui,
de
recycler.
recycler, de réutiliser, de redonner une nouvelle vie à des choses qu'on jetterait par ailleurs, et de aussi redonner une certaine, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure, une élégance à la vie quotidienne,
Carrément.
rendre de nouveau le monde à l'échelle de l'homme. ou la femme. Mais l'homme, voilà, replacer l'homme au centre et non plus son portefeuille.
Cela dit, d'un point de vue purement, purement théorique, ça pose aussi un problème, c'est que tout ce qui repose sur le steampunk repose sur des énergies qui certes ne sont pas actuelles, mais sont une catastrophe écologique. L'ère du charbon, c'est l'ère de la vapeur, c'est les premiers grands pics de pollution, c'est la révolution industrielle,
c'est
monstrueux en termes écologiques.
Le smog.
Donc, problème
là-dessus. C'est pour ça que dans les romans steampunk, il y a toujours la substance merveilleuse, donc la cavorite, l'éther, qui est là pour résoudre tous les problèmes.
Et Nikola Tesla est une des figures qui rappelle plus souvent avec l'espèce de fantasme de l'énergie gratuite et globale qu'on veut bien lui donner. Effectivement, pour ne citer Christopher Priest, qui l'utilise comme personnage. Christopher Priest, d'ailleurs, on aurait pu le mentionner, encore un de ses auteurs qui s'est retrouvé à être catégorisé steampunk sans ne jamais l'avoir demandé.
Bah, parce que oui, mais lui, il en a écrit, c'est dans son œuvre, c'est dans sa cohérence. C'est, voilà, c'est la cohérence de son œuvre.
J'aime beaucoup d'ailleurs cet auteur. Ouais.
Mais aussi, c'est notre liberté à nous, lecteurs, de pouvoir mettre les labels, parce que nous, on aime bien mettre des étiquettes partout.
L'autre remarque que je me faisais sur cette notion d'écologie, c'est qu'au final, si cette réflexion est valable pour le steampunk, elle peut l'être pour à peu près toute fiction qui n'est pas inscrite dans un monde contemporain. On pourrait dire que la fantasy est écologique, est écologiste, pardon.
Oui.
Tolkien est-il un écologiste ? Certainement, si on cherche assez bien, oui, on arrivera toujours à trouver de quoi justifier n'importe quoi dans une œuvre comme celle-là, mais ça me paraît totalement vain d'essayer même de le justifier. Mais effectivement, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de voiture, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Oui, je pense
pas de centrale nucléaire.
C'est un idéal, une réalité.
Au-delà d'un idéal, c'est tout simplement un autre référentiel, je suppose. Si je décide d'écrire une fiction dans la Grèce antique, peut-on me taxer d'être, écologiste par exemple, ou sous prétexte que je vais parler d'un système politique qui n'est pas le nôtre, est-ce que je vais forcément m'opposer à celui-ci ? Non, certainement pas. Donc, sauter de la conclusion, le steampunk parle de systèmes politiques, écologiques ou autres qui ne sont pas les nôtres, donc forcément sont en train de se positionner en retrait ou même en opposition au nôtre, ça me paraît sauter un peu à une conclusion hâtive.
Oui, après je pense que c'est surtout c'est des Américains qui avaient sorti ça, je crois. Et c'est un sous-genre de personnes qui essaient de vivre de manière différente, etc. Qui ne sont pas dans la musique ni rien d'ailleurs. Je crois que c'est juste un mode de vie, quoi. Mm-hmm. Oui, je pense que ça concernait que ça, quoi. Mais oui, je suis d'accord.
C'est
pas logique.
C'est une question qui mérite d'être posée, mais qui, à mon avis, fait fausse route, à un moment ou à un autre. Et qui, finalement, à mes yeux, ça peut me contredire. Enfin, tu confirmera ou infirmera, a par contre pour qualité de montrer que le steampunk est un des seuls genres littéraires à ma connaissance qui, justement, ait créé une forme de mode de vie, ou de volonté de mode de vie. Je ne connais pas de personne se revendiquant du cyberpunk en termes de mode de vie, si ce n'est peut-être le body hacking, le transhumanisme, on pourrait en discuter, mais bon, là, à mon avis, ça n'a pas attendu la littérature cyberpunk pour déjà éclore. Je ne connais personne qui se revendique d'un mode de vie de la fantasy ou du polar, d'ailleurs ça aurait souvent aucun sens. Et pourtant, le steampunk est un des rares genres, peut-être pas l'unique, mais un des rares genres qui permettent cette j'allais dire dérive, mais sans aspect moral dans la notion de dérive, cette translation plutôt.
Oui, ben déjà, ça devient de plus en plus facile.
Certes.
De pouvoir trouver soit de jolis gilets, soit des tenues un peu rétro, ça, on voit qu'il y a eu toute une contamination du côté de la mode, et de ce côté-là.
Et un commerce qui s'est fait dessus, de fait.
Et le fait que ça se développe, mais je dirais que c'est très récent. C'est peut-être les 2 ou 3 ans que l'on commence à voir ça.
Tout au plus.
Parce qu'il y a d'abord eu, bien sûr, des gens qui étaient un peu en fer de lance, mais le fait que cela s'offre au grand public, c'est quelque chose d'assez récent. Mais là, tu as totalement raison. C'est une des spécificités du steampunk en tant que genre, d'avoir explosé quasiment, systématiquement, toutes les limites qu'il pouvait rencontrer.
Oui. Oui. Ce qui en fait, finalement, un des genres les plus transmédia, pluridisciplinaire, au final. Ce qui, en soi, déjà en fait un sujet d'étude intéressant, ne serait-ce que pour cet aspect-là.
Et de, ben, sorry, par exemple, là, on parlait de The Order, là, le jeu sur oui. PlayStation 4.
Donc j'ai aperçu quelques vidéos, effectivement.
Le développement d'un tel jeu, ça va être quoi, 2 ans?
Sans doute.
C'est-à-dire le processus industriel. Donc il y a un temps, c'est-à-dire qu'avant que le jeu sorte l'année dernière, la décision de le lancer avait été prise 2 ans plus tôt. Ça veut dire que ce qui sort maintenant, là, il y a, bah, cette semaine, c'est le nouvel épisode de Assassin's Creed, qui a un module en vente steampunk, vu que ça se passe à Londres au 19e siècle.
Forcément.
Qui, lui aussi, il a été lancé il y a 2 ans. Je sais pas, je dis ça, il faudrait chercher. Ça veut dire que tout ce qui arrive maintenant, c'est le produit d'un travail qui a commencé en décalage avec nous.
Alors ce travail est en décalage pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il a été entamé par des fans qui se sont retrouvés, bon gré mal gré, précurseurs? Ou est-ce qu'il a été pensé de façon calculée, voire cynique, dans le cas de l'aspect commercial? On en parlait tout à l'heure avant la conférence, IBM avait flairé la tendance steampunk dès 2011 pardon, de mémoire, en disant « ce sera à la mode dans 2 ans ». Ils se sont trompés finalement de presque rien. On va dire qu'aujourd'hui que le steampunk est devenu un effet de mode, on est en 2015, ils l'avaient prévu pour 2013. Ouais, faudrait que j'aille vérifier les dates exactes. Mais... Donc, dans quelle mesure, prenons l'exemple d'un développement de jeu vidéo qui va durer effectivement 2 ans dans le cadre d'une grosse franchise, dans quelle mesure le designer artistique n'était pas tout simplement lui fan et a réussi à imposer son univers et coup de bol l'univers dont il est fan est devenu lui-même un effet de mode au moment où le jeu sort, ou est-ce qu'il y a eu une volonté faite sciemment de dire bon, qu'est-ce qui va marcher dans 2 ans?
Je pense que
c'est une vraie question.
Je pense que c'est un peu des deux, mais que justement nous sommes dans ce décalage de propositions qui arrivent alors que le public, lui, est dans l'immédiateté. Il dit c'est le steampunk d'aujourd'hui. Or non, c'est tous les produits qui arrivent sont des, enfin, par produit c'est au sens plus la chose. Oui. Hein, il y a toujours le temps de l'acte créatif qui est un temps long. Donc il y a toujours un temps qui lui mature et un temps qui lui est beaucoup plus dans l'immédiat. Et ce qui est fascinant avec le steampunk, c'est que les deux se rencontrent et se sont rencontrés plusieurs fois. Par exemple, quand Alan Moore lance l'idée de Gentleman Extraordinaire.
Ce qui n'est pas tout récent en plus.
Hein, qui date, de mémoire, je dirais que c'est tout début des années 90.
J'aurais dit les années 90 aussi, ouais. Sans avoir la date exacte.
Il invente le steampunk, qui existait déjà, mais bon, lui, il l'invente à sa sauce. Quand Juan Elio écrit La Lune Seule le sait, donc en 2000, le premier roman qui lance le steampunk francophone. Qui existait, il y avait déjà eu des tentatives antérieures, mais là c'est le premier roman qui tout d'un coup donne de la visibilité. Jean Elio n'avait jamais entendu parler du mot steampunk.
Bien sûr.
Donc ce qui fait que je suis convaincu que le meilleur qui va arriver, ça va être des gens qui vont partir dans des directions où on ne les attend pas forcément. Que ce soit en termes d'esthétique ou en termes purement artistiques.
Bien sûr.
Et que c'est cette originalité-là qui est intéressante. On voit très bien apparaître actuellement du steampunk, du gigantesque. Donc c'est le steampunk historique, donc des machines monstrueuses qui sont dans des villes qui sont des Blade Runner steampunk.
Oui, tout à fait, oui, des mégapoles.
Mais aussi, il y a un steampunk qui est celui du minimaliste. C'est-à-dire qu'on est très réaliste. Et il n'y a que quelques éléments comme ça qui procurent le sentiment de décalage uchronique. Donc, il y a des choses qui se passent, des évolutions qui ont lieu en ce moment même sous nos yeux, mais comme nous, on est dans l'immédiat et que les artistes sont dans leur propre temporalité, on doit toujours attendre pour voir ce qui va arriver. Là, il y a le film de Tardy qui va sortir, je suis très curieux de le voir.
Oui, j'en ai entendu parler, mais je n'ai rien vu pour l'instant, je ne me suis pas renseigné sur la question. Mais par le film d'ailleurs, je saute un peu du coq à l'âne, mais je vais faire passer ça en tant que parenthèse. Je me suis récemment fait la remarque que l'intégralité du steampunk était déjà inscrite dans Metropolis. Mais, de quoi, 20, 22, 20, 27
mais 27, tu peux parler de n'importe quel art et de n'importe quel genre, tu peux toujours finir par aboutir à Metropolis.
Oui, certes, je suis d'accord sur ce point.
Mais oui, tu sais, enfin, si tu te rappelles à la fin, quand il y a la machine qui se transforme
en
Moloch dévoreur, ça, c'est un voilà, là, on est dans un thème typiquement steampunk.
Absolument.
Même si là, on est dans la genèse de la science-fiction. Et on n'est absolument pas dans une démarche rétrofuturiste.
On est dans le futurisme et non pas dans le rétrofuturisme. Mmh. Ça, on est d'accord.
C'est la différence entre le, entre Metropolis et Blade Runner.
Ce qui m'avait d'ailleurs choqué lors de la grosse exposition à la Galerie du Jour chez Agnès B. en 2011, qui était assumée comme étant une des grandes expositions rétrofuturistes, avec quelques artistes de très très haut niveau qui étaient exposés, des gens comme Chris Cooksey, Stéphane Halleux, Sam Van Olfen. Et au milieu de tout ça, des photos 1890-1900, quelques éléments de cinéma ancien. Pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, puisqu'on part de l'origine du futur. Enfin, on prend du futurisme qui permettra un siècle plus tard de créer le rétrofuturisme pour le faire passer comme étant déjà du rétrofuturisme. Ce qui, pour moi, est extrêmement bancal. C'est comme mettre du Jules Verne dans une anthologie steampunk. C'est une monstruosité, c'est une absurdité intellectuelle au final. Puisqu'on est en train d'utiliser quelque chose qui n'a pas la notion même de rétrofuturisme, puisqu'elle est futuriste. Elle ne peut être rétro que dans sa relecture postérieure. D'où ma parenthèse.
Non, mais là j'ai fait la préface d'un recueil qui va sortir prochainement, de fictions anciennes. Donc des fictions écrites aux alentours de 1850-1900. Qui sont donc des fictions, mais qui sont justement jubilatoires, parce qu'on y voit des motifs qui aujourd'hui sont toujours utilisés, que ce soit celui du robot méchant, des savants fous, etc. Quelque part, on n'a rien inventé. Le mouvement rétrofuturiste est la partie la plus difficile à expliquer. Quand tu dois faire comprendre à quelqu'un la subtilité du mouvement, c'est ce qui est le plus difficile. Ce mouvement de retour vers le passé avec la conscience d'aujourd'hui.
Oui, la nostalgie d'une esthétique datée, justement par son aspect daté. Donc se réapproprier une vision passée qui fondamentalement est nostalgique, je suppose. Enfin, du moins chez la plupart des gens.
Mais le steampunk, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, est réactionnaire.
Oui.
Au sens où il y a un retour vers le passé, des valeurs passées, et de les réaffirmer comme étant toujours actuelles. Et non pas, non pas au sens de « c'était mieux avant », parce que ça serait une horreur. Mais l'idée de se dire qu'on peut revitaliser tout un imaginaire un peu oublié, on peut revisiter toute une littérature un peu oubliée, on peut revisiter des esthétiques un petit peu oubliées, et y retrouver toute une vitalité, une modernité, un plaisir. Il est certain que j'ai oublié les noms, mais aujourd'hui t'as un jour sans nom, je n'arrive à me rappeler d'aucun nom. Donc un illustrateur qui a repris le Frankenstein de Mary Shelley, donc c'est Frankenstein de Mary Shelley, et le livre c'est le texte intégral écrit par Mary Shelley, mais toutes les illustrations sont des illustrations du roman à la sauce steampunk.
Ça s'y prête.
Et ce qui fait que petit à petit, en lisant le livre, et c'est par la magie liée à la force de l'image, on a l'impression que le roman de Mary Shelley était un roman steampunk. Parce qu'il y a un dialogue qui s'opère entre le texte et l'image, et c'est absolument merveilleux. Il a fait la même chose avec La Guerre des Mondes, et ça marche aussi, mais c'est plus facile.
On pourrait faire la comparaison avec le Nautilus, qui finalement n'est une création visuelle que bien plus tardive que Jules Verne. Au final, le Nautilus, tel qu'on l'imagine immédiatement, c'est le film de Disney qui date de quoi, des années 50.
Oui.
Dans ces eaux-là, je n'ai pas la date en tête, bien sûr. Mais...
Et le Nautilus du Disney qui n'a rien à voir avec le Nautilus décrit dans le roman.
Tout à fait. Et pourtant, c'est celui qui reste.
Mais Mais quand Disney produit donc ce 20 milieux sous les mers, qui est un film qu'il a tenu à bout de bras et qu'il a défendu contre vent et marée pour qu'il se fasse, avec un budget pharaonique, pour ce, enfin, pour ces, pour ce, pour ces studios, il y a une démarche rétrofuturiste.
Certainement.
Parce que il retourne vers le passé, il réinvente tout un imaginaire autour de ce passé-là. Si on devait, il y a voilà quelques, enfin les premiers films qui illustrent Jules Verne sont tous, même quand Méliès fait son voyage dans la Lune, il est à cheval entre les deux, parce que il est encore dans un visuel et un imaginaire qui est hérité du 19e siècle. Mais il ne cherche pas à reproduire les gravures des Hetzel.
Alors, est-ce que toute adaptation moderne à son époque, quelle que soit l'époque, adaptation d'un matériau plus ancien, est condamnée à devenir du rétrofuturisme involontairement?
À condition de réinvestir l'imaginaire de l'époque.
Bien sûr, oui. Voilà. J'aurais dû rajouter, est-ce que toute adaptation personnelle, marquée de l'époque de la création, reprenant une création plus ancienne, est condamnée à devenir du rétrofuturisme?
Je pense que c'est une tendance forte. Est-ce qu'on est vraiment intéressé par une adaptation de Jules Verne qui ne serait à stricto sensu que du Jules Verne à la lettre? Ou est-ce qu'on ne va pas être tenté d'y rajouter un peu plus de science-fiction?
Bien sûr. Mais là, on serait sur un ajout narratif, un ajout de contenu. Pas exclusivement esthétique, donc.
Oui, mais si tu rajoutes des éléments technologiques, des machines un petit peu plus grosses, des cadrans un peu plus gros ou un peu plus nombreux, que tu coupes tous les passages ennuyeux de Jules Verne.
Très pédagogique.
Oui. Je me souviens encore des champignons dans Voyage au centre de la Terre.
Oui, tout à fait, mais l'aspect pédagogue de...
Et pour justement y mettre une dose supplémentaire, soit d'aventure, soit de fantaisie, soit de merveilleux scientifique.
On serait donc dans le rétrofuturisme à ce compte-là. Alors j'ose une analogie un peu bourrine. Lorsque un réalisateur allemand, en 2004, fait une adaptation de l'Iliade sous le nom de Troie au cinéma, est-on dans le rétrofuturisme? L'esthétique est typiquement 21e siècle. Le scénario est celui d'Homère.
Quand tu vois la flotte.
Oui, tu sais, oui, tout à fait.
C'est le débarquement.
Absolument, oui, tout à fait.
Alors qu'à l'époque, ils avaient peut-être deux bateaux et demi. Hein. Tu sais, c'est comme dans les films médiévaux.
Oui,
tu vois des... Voilà, enfin, voilà. On est plus dans l'épique.
Bien sûr.
Que dans le rétrofuturisme.
Le rétrofuturisme ne pourrait pas être épique.
Là tu joues avec les mots.
Oui, tout à fait. Voilà, je vois pas d'incompatibilité.
Les deux vont de pair, je pense. Vu que tout ce qui, enfin, le rétrofuturisme va supposer son compte de joie, d'émerveillement, de sidération, et le registre épique s'y prête particulièrement bien.
Certes. Le rétrofuturisme serait un genre ou un style, narrativement, selon toi?
Une esthétique.
Ouais. Donc on serait plus dans l'ordre du style.
Parce que du genre. Parce que tu peux faire du rétrofuturisme policier, du rétrofuturisme fantasy, du rétrofuturisme science-fiction. Enfin, il n'y a pas de limite, pas de norme.
Ça, je suis tout à fait d'accord. On peut rétrofuturiser à peu près n'importe quel scénario.
Regarde tout le monde. Voilà le succès de Star Wars, qui est une fiction rétrofuturiste de base.
Qui est une fiction rétrofuturiste, incontestablement.
Sauf que si tu expliques aux gamins que c'est en fin de compte, c'est basé sur la science-fiction des années 50-60 avec une dose de films japonais dedans.
Et voilà un scénario de Kurosawa. Voilà.
Mais voilà, on est dans une fiction rétro-futuriste.
C'est vrai. Ce qui expliquerait d'ailleurs éventuellement le nombre de points de contact qu'on a, notamment en cosplay, entre le steampunk pur et l'univers Star Wars. Le nombre de Vador ou de Boba Fett refait en rouage et en cuivre.
Ah, c'est cool.
C'est super bon, non, c'est vrai. Mais finalement, les premières fois où je suis tombé sur ce genre de planche de dessin, je pense notamment à une très belle illustration de Boulet d'un Vador steampunk ou en costume. Les premiers moments, je dois avouer que ma réaction a été. Hein? C'est ensuite seulement que j'ai pu comprendre qu'il y avait un point de jonction qui était logique. Qui n'allait pas de soi, mais qui est logique quand on y pense.
Mais est-ce que ça doit être logique? Parce que moi, je vois beaucoup. de cosplay passer, quand on voit les photos des Comic-Con et des choses comme ça, tout peut être steampunkisé, quoi.
Mais
même sans logique, quoi.
C'est-à-dire que en cosplay, je vais être affreusement caricatural. Mais si quelqu'un veut, voilà, si j'étais fan de manga, moi je voudrais m'habiller en Naruto. Mais c'est pas grave, du moment que ça me plaît. Mais je suis pas fan de manga. Et en fan de steampunk, il n'y a pas de héros. Il y a quantité de romans, quantité de BD, quantité, mais il n'y a pas de héros emblématiques. Ce qui fait que quelqu'un qui va faire son costume steampunk va inventer son propre personnage. Donc ce qu'on a pu appeler sa steam sauna, pour sa persona. Donc un peu dans une démarche de jeu de rôle.
De création de personnage.
De création d'un personnage qui va être amené lui-même à évoluer au fil du temps et au fil des envies ou des histoires, puis être abandonné, retrouvé, etc.
Oui, tout à fait, oui.
Mais ça, c'est vraiment, là aussi, c'est une des spécificités. Dans une convention, on va très facilement on reconnaît les personnages, ou si on ne connaît pas leur nom, on en voit 12, donc on sait que c'est un personnage. Tandis qu'en steampunk, chacun est unique.
Alors qu'on pourrait imaginer quelques icônes, quelques personnages iconiques qui ne soient pas forcément eux-mêmes inscrits dans le steampunk, mais qui soient inscrits dans les inspirations steampunk, c'est-à-dire soit dans le futurisme des années 1870-1910, soit même dans la littérature non futuriste de cette époque, on parlait de Fantomas tout à l'heure, toute la période littéraire des Gaston Leroux pourrait faire un personnage steampunk. Quoique d'ailleurs, je dis pourrait, mais j'ai quelques exemples en tête, le personnage de Sherlock Holmes est devenu une forme de personnage iconique du steampunk, bien malgré lui, parce qu'il n'a absolument aucun aspect futuriste dans Conan Doyle, et que l'aspect rétro-futuriste pourrait être contestable. Et pourtant, il est en train de se steampunkiser, puisqu'apparemment, depuis tout à l'heure, le néologisme est accepté par tout le monde. Les films de Guy Ritchie ont un aspect, et sont souvent considérés comme étant des films
à esthétique.
À couleur steampunk, en tout cas à esthétique steampunk. Alors que finalement, ils ne font que reprendre le personnage de Sherlock Holmes modernisé.
Oh, même pas, ils sont très pauvres d'un point de vue Sherlock Holmesien.
Je suis assez d'accord sur ce point. Malgré tout, le personnage n'est pas modifié. Il est simplifié sans doute, mais on reprend la grande sauce Sherlock Holmes, c'est-à-dire un enquêteur dans les années 1890.
Dans un Londres gigantesque, magnifié.
Tout à fait. Dont le grand méchant Moriarty devient un industriel. Ce qui est, à mon avis, assez parlant sur l'aspect steampunk de la chose.
Mais si on voulait créer des catégories de personnages steampunk, on devrait tomber sur des archétypes. Donc ça structurerait l'aventurier, l'aventurière, l'espionne, le savant fou, le traître, puis après tu peux combiner comme tu veux, bien sûr, le militaire.
Bien sûr.
Il n'y a pas de héros identifiable en tant que tel. Ou alors tu vas reprendre un personnage, tu peux faire un Livingstone steampunk.
Oui, tout à fait. Oui. Ben, c'est ce que fait Alan Moore finalement sur sa League of Gentlemen. Il ne prend que des héros iconiques d'une autre littérature pour les introduire dans une œuvre.
C'est le cahier des charges, c'est le monde de la Ligue, toutes les fictions y cohabitent.
Absolument.
Donc le steampunk en tant que tel est encore en train de se trouver, mais peut-être que l'année prochaine il y aura un truc qui sortira qui va tout d'un coup nous exploser la tête et il y aura un personnage.
Donc l'idée serait qu'une icône steampunk puisse apparaître d'un matériau original.
Je pense que le seul truc qui peut faire la bascule entre le genre et le grand public, c'est un héros reconnaissable.
D'accord. Intéressant, effectivement.
Ma grand-mère, tu peux lui parler de Dark Vador.
Tout à fait.
Je suis pas sûr qu'elle ait vu les films.
Mais c'est un personnage pop culture et qui est inscrit dans un inconscient collectif.
Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse servir de point d'appui.
Bien sûr, ce qui nécessiterait donc, et ça revient d'ailleurs à une conversation qu'on avait juste avant le début de la conférence, à à la création d'une œuvre suffisamment grand public pour qu'elle touche l'intégralité d'une population, donc d'un inconscient collectif donné, en tout cas.
Voilà, enfin, un pourcentage suffisant de la population qui n'est pas touchée par le genre. Et qui, tout d'un coup, enfin, je suis convaincu que la majorité des gens qui vont aller voir Star Wars à la fin de l'année n'ont jamais lu un roman de science-fiction.
Certainement, en effet.
Et peut-être que même ce sera le quatrième film de science-fiction qu'ils iront voir de leur vie. Voilà. Mmh. Donc c'est
le septième, selon
le le septième, oui. Mais c'est moi, j'avais coupé une trilogie. Mais le... Voilà, là on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel, du non prévisible, du non quantifiable, qui peut très bien ne jamais arriver. Et ce qui fait qu'on sera toujours dans cette répétition du discours que j'entends très régulièrement, que le steampunk est à la mode. Ce qui pour moi est une hérésie. Hein.
Dans quel sens ?
Il n'est pas à la mode, il est visible, il est reconnaissable.
Destiné à devenir à la mode ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, parce que si c'est une mode, c'est une mode qui dure depuis 40 ans, donc ça fait une mode qui dure. Et là, c'est un rêve. Donc, je pense que non, c'est que comme toutes les formes, maintenant, il est dans une position où on peut l'identifier et que même des gens qui ne le connaissent pas le reconnaissent. Ou même que des gens qui ne l'aiment pas savent ce que c'est.
Oui, tout à fait. Oui, pour pouvoir être détracteur, encore faut-il connaître son ennemi, bien sûr. Et si, en envisageant qu'il devienne à la mode prochainement, véritablement à la mode, donc qu'il commence à avoir un vrai statut de pop culture, selon toi, quelles pourraient être les conséquences ? Est-ce que ça risque d'appauvrir le genre ? Est-ce que ça risque de l'ouvrir ? Est-ce que ça va tout simplement stagner ? Et surtout, est-ce que les communautés, j'aime peu ce mot, mais je vais quand même l'utiliser, les communautés aujourd'hui de vaporistes, de steampunk, de steamer, on peut utiliser le mot qu'on veut, ne vont pas avoir une réaction un peu de jalousie, une réaction de cristallisation, de se voir finalement se faire retirer leur jouet qui est bien à eux, qui est bien communautaire et bien identifiable, et bien clanique même, pour la jeter au grand public et se retrouver dans cette situation de jalouse.
Ah, d'une certaine façon, il est agréable d'être dans la situation de l'incompris qui a raison.
C'est la situation du VIP aussi. Hein,
mais est-ce que les gens qui écoutaient du rap dans les années 80 ont arrêté de l'écouter quand c'est devenu à la mode ?
Certains. Et d'autres. Alors, tu parles de rap, tout à l'heure je parlais de métal, pareil avant le début de la conférence. Je l'ai vu dans le milieu des musiques extrêmes. Comme je le disais, le black metal, à partir du moment où certains groupes ont commencé à vendre des albums, je pense à des groupes comme Cradle of Filth, qui sont à peine considérés comme tels par les puristes, un mouvement parallèle s'est créé, le true black, parce que tout simplement, c'est mon analyse, elle est peut-être un peu biaisée et subjective, mais parce que tout simplement, les blackeux n'acceptaient pas que leur musique, qui était la leur, passe dans le grand public. Donc ils ont dû créer quelque chose de plus violent, moins bien enregistré, plus punk d'une certaine façon, pour pouvoir encore avoir ce ferment d'identité face à ceux qui s'étaient vendus au grand capital et qui, mon Dieu, vendaient des albums, réussissaient à vivre de leur art. Ce qui est une monstruosité auprès de beaucoup de musiciens, à les comprendre. Est-ce qu'on risque pas d'arriver sur un phénomène du même genre ?
Oui. Je pense que dans la dynamique humaine, ça ne m'étonnerait pas. Le phénomène de niche qui explose au grand jour peut être difficile à gérer. Bon, personnellement, moi je n'ai qu'une seule envie, hein, c'est qu'il y ait de plus en plus de lecteurs, de plus en plus de curieux. Et que le phénomène de transmission et de développement ne cesse de prendre de l'ampleur.
C'est l'évolution logique, je dirais. Enfin, ça fait ça avec tous les genres qui maintenant explosent. Enfin, par exemple, la fantasy, avant que le Seigneur des Anneaux sorte au cinéma, bah, quand il est sorti au cinéma, justement, il y a tout le monde qui s'est mis à aimer ce genre-là. Et tous ceux qui aimaient ça avant que ça sorte étaient un petit peu jaloux en mode ouais, mais avant c'était notre truc et maintenant c'est le truc de tout le monde.
Oui, le Seigneur des Anneaux, hein. Avec le, oui, il est entre, puis le fossé entre les lecteurs.
C'est ça. beaucoup de gens sont devenus fans absolus de cet univers.
Je ne faisais pas de fantasy avant que ça. Enfin, j'avais lu Seigneur des Anneaux quand même, avant que ça soit au cinéma.
Même les 300 premières pages.
Je l'ai fait au cinéma et ça a décuplé ma. Bah, ça m'a ouvert en fait à toutes les lectures de l'imaginaire. Mm. Et après, j'ai continué à en lire, à explorer d'autres genres, etc. Et peut-être que le film ne serait pas sorti au cinéma, je ne l'aurais pas lu avant. Enfin.
Ah, mais
ça
oui,
je. Permettre d'initier des gens aussi qui en avaient jamais entendu parler. Quoi.
Certainement.
Et ce. Oui, mais ce. Bah, le steampunk a pour lui d'être quand même une communauté francophone conviviale.
Dans l'ensemble. Hein.
C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, il n'est pas vu de haut s'il n'a pas le costume qui est parfait, ouais. Ou s'il a. C'est. Il y a souvent des événements qui sont organisés dans les grandes villes et qui sont ouverts à tout le monde.
Oui.
Et donc ça, c'est, il y a vraiment toute une sympathie bon enfant qui est très positive. Avec des micro-ateliers qui vont se créer pour soit pour travailler le cuir, soit pour apprendre à coudre. Donc ça, ce sont des choses qui sont saines.
Tout à fait. Tout à fait. Là-dessus, c'est pas moi qui dirais le contraire.
Voilà, et qu'il ne faudrait surtout pas perdre. Mais il est vrai que si un jour il y a une expansion vers le grand public, il y a beaucoup de choses qui vont, beaucoup de lignes qui vont bouger.
Il faut trouver l'œuvre qui va faire exploser le genre. Ouais.
Qui est probablement pas encore écrite.
Ou peut-être une adaptation d'un truc qui est depuis longtemps et finalement comme le trône de fer.
Tout à fait.
Qui
avait été écrit il y a longtemps. Tout à fait. Le passage d'un médium à un autre, effectivement, peut suffire.
Il y a eu plusieurs projets de séries télé steampunk qui, pour l'instant, n'ont pas abouti en termes de production. Mmh. Il y avait Lantern City, qui était tout un univers transmédia.
D'accord.
Il y a eu longtemps un projet, parce que Mark Twain est tombé, enfin, est libre de droit.
Oui, j'imagine.
Donc, de faire un club de Réfine, donc adulte.
Mmh.
Donc, steampunk.
Oui.
Donc, l'idée était sympa. Mais voilà, ça fait partie des choses qui, pour l'instant, sont dans les limbes.
C'est vrai que pour l'instant, en termes de cinéma et de série, il n'y a pas eu de grands jalons dans le genre qui ait vraiment été mis à portée du grand public. Et quelques exemples que j'ai de longs métrages cinéma steampunk, ayant une connotation steampunk, n'ont pas eu énormément de succès.
Ou ne sont pas très bons.
Ou ne sont pas très bons, éventuellement. Je pense à Wild Wild West, effectivement, dans les années 90, qui en avait, disons-le. Captain Sky, qui n'est pas un mauvais film, mais qui n'a pas eu un retentissement énorme, qui est plus dieselpunk que steampunk. Mais...
Qui a tué la carrière de son réalisateur, qui n'a jamais retouché une caméra depuis.
C'est vrai, en effet. On n'est pas entendu parler depuis, en effet.
Donc, on est dans une période de transition sur bien des points.
Je ne sais pas si tu as grand chose à ajouter, je crois que ça va faire une bonne heure qu'on cause un peu en roue libre. Je ne sais pas si vous avez vous-même des remarques ou questions. Ou...
Parce que sinon, il va nous raconter ses vacances à la boue. Hein.
Flûte, t'es au courant.
Non, de toute façon, ça finit dans 10 minutes.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Tout à fait.
Moi, je voulais revenir sur le fait que, par exemple, Jules Verne, c'est pas du steampunk.
Non, il n'a jamais écrit une seule ligne de steampunk.
Oui, mais le fait que son esthétique qu'on s'imagine maintenant de lui,
donc, le mouvement d'imaginer son esthétique est steampunk, parce que nous sommes dans un mouvement à rebours. Mais lui, quand il écrivait, il faisait du merveilleux scientifique, et lui, il faisait de la prospective. Alors, c'était la prospective à court terme, basée sur la technologie de son temps.
Parce qu'en gros, tout ce qui se passe à l'ère victorienne, finalement, c'est pas du steampunk tant que c'est pas dans le futur, tant que le futur ne leur dit pas ça.
Pour que ce soit du steampunk, il faut que ce soit du victorien écrit de nos jours.
Ouais. Par notion d'être futuriste.
H.G. Wells n'a jamais écrit une seule ligne de steampunk.
Et il est vulgarisé là-dedans.
C'est-à-dire que c'est son œuvre qui est revisitée dans le mouvement à rebours.
D'une certaine façon, il en est l'origine, donc il ne peut pas en faire partie. Lorsqu'on dit que Neil Young est l'origine du grunge, C'est vrai, mais il ne fait pas de grunge. Black Sabbath est l'origine du doom metal, mais il ne fait pas de doom metal. Etc. Bon, en musique, on pourrait prendre n'importe quel exemple, hein, y compris dans le classique d'ailleurs. À partir du moment où on est l'instigateur de quelque chose inconsciemment, sans manifeste, on ne peut pas faire partie de...
Oui, mais pourtant, on pourrait avoir, sans vouloir, inventé le genre, et du coup, être devenu le père fondateur, mais on ne savait pas, parce que...
C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, la frontière est bien nette, puisque la notion même de rétrofuturisme et donc de steampunk consiste à aller chercher dans les futurs tels qu'imaginés dans un passé, au moment de la rédaction, pour en tirer des inspirations et faire une œuvre moderne.
C'est un peu une uchronie
Oui,
c'est même un des meilleurs exemples de l'uchronie.
Ouais, le steampunk est à les deux pieds dans l'uchronie. Mais le mouvement est rétro-futuriste. C'est donc revisiter le futur tel qu'on l'imaginait au XIXe siècle. Revisiter le futur tel qu'il il était imaginé dans la Belle Époque. Ça va être aussi revisiter le futur dans les années 50. Donc là, c'est le Rocky Tear.
Le diesel punk.
Voilà. Indiana Jones.
Tout à fait. Absolument. Il m'a fallu un moment pour rattacher les wagons, mais oui, absolument, bien sûr.
Donc voilà, c'est-à-dire un mouvement de retour vers le passé.
Et j'irai même plus loin, de retour vers le passé en tant qu'il était en train d'imaginer le futur. C'est... En fait, ça paraît évident, c'est évident quand on a compris le phénomène. Mais...
Et donc ce mouvement-là peut être produit en art plastique, en musique, en littérature. Ad vitam aeternam, parce que le passé devient le futur d'un passé à venir.
À partir du moment où on a sur le passé donné des éléments de réflexion sur la façon dont, à l'instant T, eux-mêmes réfléchissaient à leur futur. Il va être difficile d'avoir une notion futuriste d'un texte de la Grèce antique.
Oui.
Pour des questions bêtement de quantité de sources et de systèmes mentaux aussi, évidemment. Mais...
Donc là, tout le mouvement rétrofuturisme, hein, si vous voulez, ça va être de la fin du 19e, enfin, principalement concentré sur la fin du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale pour le steampunk, puis après, Deuxième Guerre mondiale pour ce qu'on va appeler le dieselpunk, qui va être jusqu'au début des années 60, avec la fin de l'âge d'or de la science-fiction.
Où arrivera plutôt la partie atompunk et les uchronies liées à la guerre froide, éventuellement, qui sont finalement assez, assez peu communes encore. Donc, aucune ne me saute aux yeux, en tout cas.
Bah, il va y avoir une adaptation en série.
Le maître du haut château.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Je pense que du coup, ça va faire un peu exploser le truc. Quoi. Enfin, si elle est bien faite.
Ah, elle est formidable. Ouais. Mon cousin m'a envoyé une VHS.
Ah, ouais.
Eh ben oui, c'est pas diffusé en France, donc il m'a envoyé une VHS de l'épisode pilote et c'est formidable. Ah, c'est un gentil cousin. Oui, légalement, c'est pas diffusé en France.
D'accord.
Donc oui, non, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est une relecture du roman de Dick, qui est à la fois très fidèle au texte, tout en étant un travail de production de reconstitution d'un état fasciste normal absolument glaçante. Hein, vu que tout le travail de Dick est justement de ça, de montrer les nazis ont gagné, mais il n'y a pas de résistance. La vie continue.
Ouais. J'imagine que ce genre de série, c'est quelque chose que tu attends avec une certaine impatience.
Il devrait m'envoyer d'autres VHS.
Ma foi, mon
goût. Ben voilà, on l'a fait.
Bah ouais, c'était en petit comité, c'était très agréable d'ailleurs. Et puis comme quoi l'improvisation, ça a du bon partout. Merci à vous en tout cas.
Merci à vous.